7h15, oui, presque 15 minutes. Mm-hmm. François Gagnon, d'abord, oui. Ben commençons donc avec Desjardins. Ben, quoi d'autre?
On ne parle que de ça par les temps qui courent. Ça fait déjà presque deux semaines. Là.
Parce qu'il y avait cette pétition là, dont on parlait hier de gens qui voudraient qu'on change leur numéro d'assurance sociale. Ouais. Finalement, ça arrivera pas.
Non, ça arrivera pas. Puis même si là, ce matin, on est rendu à 90 000 personnes. Il y en avait 1700 vendredi midi. Donc, un certain engouement. Puis, il y a une deuxième pétition en parallèle qui... là, il y a un peu moins de monde qui assigne. Mais c'était clair et net que le fédéral dirait non, il n'est pas question. On va surveiller davantage. On va se mettre avec l'AMF, l'Autorité des marchés financiers du Québec, pour essayer de trouver des solutions pour être capable de protéger les numéros d'assurance sociale. Pas question de les changer. Toutefois, 2,9 millions, là, tu mettrais le bordel dans le système, ça, c'est clair.
Oui. Et en plus, tu restes responsable de ton ancien numéro.
Ben oui, c'est ça. C'est ça le problème. C'est pas parce que tu t'es victime d'une fraude que tu fais changer. Et dans le seul cas où tu peux faire changer ton numéro d'assurance sociale, c'est si tu es capable de prouver que tu as été fraudé grâce à ce numéro-là. Et ça arrive que très, très rarement. Depuis 2014, là, il y a à peine 60 personnes qui ont réussi à faire changer leur numéro d'assurance sociale. Mais tu demeures responsable de ce qui se passe avec ton ancien. C'est pas parce que tu as un nouveau numéro d'assurance sociale que l'ancien qui continue de circuler, soit pour obtenir un passeport, soit pour obtenir un prêt, soit pour une carte de crédit, etc. Il cesse pas d'exister pour autant. Et en plus, t'as un méchant paquet de troubles de tout changer partout, ton employeur, les banques, les différents ministères, etc., etc., etc. Et on s'embarque dans une aventure là, qui n'a pas de bon sens. Alors donc, c'est pour ça qu'Ottawa a dit non hier. Toutefois, il y a une enquête conjointe. Puis là, je voulais te parler un petit peu de cette enquête-là entre la Commission d'accès à l'information du Québec et le commissariat à la vie privée du Canada qui vont faire enquête pour savoir ce qui s'est passé exactement. Exactement. Ouais. On en saura peut-être un peu plus, mais attendez-vous pas à des sanctions extraordinaires, là, parce que d'abord, la Commission d'accès à l'information du Québec n'a pas le pouvoir d'émettre des amendes, c'est bien plus des vieux pieux que d'autres choses, et les amendes du côté du commissariat à la protection de la vie privée, c'est minime. Contrairement à ce qui se passe en Europe, par exemple, où là-bas, ils ont des dents, ou même aux États-Unis.
Mais t'as vu British Airways?
Ben, 220 millions, tu sais.
220 millions de pénalités?
Ouais. Là, ils contestent, c'est sûr, là, parce que pour 500 000 personnes, là, 500 000 dossiers c'est ici, ça. On a 2,9 millions, puis au pire, je regardais hier la loi, là, je pense que c'est autour de 10 000 $ si jamais il y avait eu infraction, puis l'infraction est la suivante, là. C'est si Desjardins n'a pas tenu des livres, ou en tout cas tenu compte de ce qui est en train de se passer. Alors, avant de prouver ça, on est loin de là, mais ça va permettre au moins d'en savoir un petit peu plus et peut-être de façon parallèle avec la Sûreté du Québec d'en connaître davantage, parce que je pense que les gens, ce qui est frustre, là, c'est pas de la façon dont Desjardins agit dans cette histoire-là, beaucoup plus que de savoir où sont rendues ces maudites données-là.
Ben oui.
C'est ça le problème, là, parce que là, le gars, c'est un gars en marketing de la région de Lévis qui a réussi à aller chercher des données personnel de 2,9 millions. Comment se fait-il que ce gars-là ait réussi à obtenir ces données financières-là?
Alors, mais c'est surtout qu'est-ce qu'il a fait avec ensuite?
Ben,
là?
Après, ben oui. Après, qu'est-ce qui arrive avec ces données-là? Alors, on veut savoir, puis à qui les a vendus? Alors, c'est l'enquête. Puis habituellement, dans le domaine financier, c'est long en bébite. Et j'espère, en tout cas, j'espère pour le bien de ces 2,9 millions de personnes-là, c'est pas une question de vengeance, c'est une question de justice, que ce bonhomme-là ira pas couper en prison seulement que 6 mois, parce qu'on l'a vu avec d'autres cas ici au Québec où les sentences, je les trouve pas mal clémentes dans le domaine financier.
Bon, quand une chicane de famille fait mal à une entreprise en bourse, tu parles de Velan.
Oui, Velan. Peut-être que les gens, ça leur dit pas grand-chose, mais c'est une entreprise de Ville-Saint-Laurent, une entreprise familiale, mais qui est inscrite en bourse, qui est très, très connue à travers le monde, parce que c'est elle qui a fourni. Eux, ce qu'ils font, là, c'est des espèces de vannes, tu sais, l'équivalent de tes champlures à la maison, mais pour les niveaux industriels. Mm-hmm. Ils fournissent les centrales nucléaires. D'ailleurs,
les
le grand
soupapes, là, c'est ça?
Des soupapes, exactement. Ouais. Ouais. Le grand collisionnaire de Hadron, là, en Suisse et en France, là, qu'on a vu d'ailleurs dans Ange et Démon en 2009, là, ils ont fourni 2500 valves là-dedans. Là.
Ah, oui,
c'est quand même pas rien. Mais la chicane est prise. Tu sais, quand le bononcle fait pas l'affaire des neveux là, et des fils de la personne qui a parti ça, disons que ça va pas très bien. Il y en a un qui... presque persona non grata, et je regardais justement, parce que cette semaine, ça va être l'assemblée annuelle, et c'est pas sans rappeler ce qui s'est passé avec les sœurs Steinberg, à la suite du décès de Sam Steinberg, il y a déjà plusieurs années. On dit, le comité est d'avis que la présence de M. Peter Velland au conseil aura une incidence négative sur la transformation stratégique actuelle en cours de la société, et d'avis également que le risque de départ de membres de la direction est confronté auquel est confrontée la société va augmenter si M. Peter Velland est élu au conseil par ses actionnaires. Imagine-toi. Tu sais, mon oncle, là, il est vraiment persona non grata. Alors, la chicane est véritablement prise à l'intérieur de tout ça. Et ça, ça fait soulever l'ire des actionnaires, de plusieurs, en tout cas. Il est peut-être temps de prendre des décisions qui seront difficiles. Et d'ailleurs, c'est long avant qu'on prenne des décisions au sein du conseil d'administration. Ouais. Tu peux pas continuer de gérer une société en bourse, a dit l'un d'eux, comme une compagnie privée. Ça se fait pas. Alors, ce qu'on demande, c'est, garde, faites le ménage au sein de votre famille, là, parce que le problème, c'est que la famille a 93% des votes. Donc, ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Alors, vendez ou fermez le capital. D'autant plus qu'on a dit, ben là, c'est une entreprise qui a pas de dette, qui a quand même beaucoup d'argent dans ses coffres. Alors, pourquoi vous rachetez, arrêtez de payer des dividendes, puis rachetez des actions. Alors, à ce moment-là, ça va peut-être créer un peu plus de valeur à l'intérieur de l'entreprise. C'est, en tout cas, jeudi, t'annonces des orages à l'extérieur. Je pense qu'à l'Assemblée annuelle...
Il va en avoir à l'intérieur.
au Saint-James, ça risque de brasser pas mal. Et là, ce qu'on veut savoir, c'est comment on va utiliser le capital, quelles sont les intentions de la famille, et surtout, le contrôle de prise de décision à l'intérieur de cette entreprise-là. On a l'impression que, pour prendre des décisions difficiles, parce que on gère ça encore comme une entreprise familiale, alors que c'est une entreprise en bourse, ça prend une éternité. Alors, quand tu veux avoir une recette parfaite pour mettre une compagnie à terre, ben, c'est celle-là.
Ça suit exactement comme celle-là. Merci François, à demain.
À demain, au revoir.
Bien, au revoir.